7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, augmentation des expulsions, contrôle dans les centres d'hébergement. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en France, la politique migratoire a pris une direction plus dure que jamais. Le 17 janvier dernier, des intellectuels ont interpellé le président de la République dans une tribune intitulée « Votre politique migratoire contredit l'humanisme que vous prenez ». Alors entre accueil et rejet, que font les villes aux migrants et que font les migrants aux villes? C'est la question d'un livre aux éditions Le Passager Clandestin, initié par le collectif Babel, qui réunit une quarantaine de chercheurs en Europe sous la direction de l'anthropologue Michel Agier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous étudiez vraiment cette question des camps, des réfugiés depuis plus de 15 ans. Votre sujet à vous, donc, c'est comment nos sociétés accueillent les migrants. Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, directeur d'études à l'École des hautes études sociales. Ce collectif Babel, alors, c'est vraiment pour affirmer que nous vivons dans un monde où les populations bougent et je dirais quoi qu'on fasse.
Oui, c'est tout à fait ça. Je crois qu'on a depuis toujours, l'humanité est en mouvement, donc on le dit assez, mais finalement, peut-être que ça n'est plus suffisant quand on est dans un monde contemporain où des gens s'inquiètent. Ça n'est plus suffisant de dire, depuis le début de l'humanité, l'humanité est en mouvement. Donc là, on voit que le monde est plus encore en mouvement parce que les moyens de transport se sont élargis, démocratisés d'une certaine façon, aussi parce que les crises sont plus nombreuses. Elles sont de partout, les crises politiques, les crises écologiques, les crises économiques, parce que tout le monde voit tout le monde, ça c'est un élément important. À l'autre bout de la planète, on sait comment le premier monde vit, l'OCDE, comme on dit, l'Europe, les États-Unis, les pays riches. Donc le sentiment aussi que nous pourrions vivre dans un monde davantage partagé et facilite aussi ce regard. Alors après, c'est une question de moyens et de droits, les droits de circuler, les moyens de circuler qui sont inégalement répartis.
Ouais, comment les villes accueillent les migrants, hein, quelles sont les politiques mises en place par les maires pour intégrer les réfugiés. Comment les communes font-elles face à ces flux de population et à l'hostilité aussi de certains de ses habitants? On en parle donc grâce au livre que vous coordonnez, que vous publiez entre accueil et rejet, que font les villes aux migrants et que font les migrants aux villes dans la collection Bibliothèque des frontières avec Choura Makaremi qui a coordonné cet ouvrage et qui est également avec nous. Bonjour Choura.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et alors vous avez beaucoup travaillé sur les violences envers les personnes en situation d'exil. Ça fait partie des signes de rejet.
Oui, et en plus, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a de la violence physique, des traitements inhumains et dégradants, comme le dit la Convention européenne des droits de l'homme, donc par exemple, lacérer des tentes, gazer des sacs de couchage, ou bien s'en prendre physiquement aux personnes en garde à vue. Il y a aussi une violence symbolique, qui est dans le traitement parfois médiatique ou dans les représentations, mais aussi violence symbolique au sens de structurel, c'est-à-dire impossible d'accès à des droits très simples et qui étaient plus ou moins garantis jusqu'à il n'y a pas si longtemps, comme le droit d'asile. C'est-à-dire que des gens qui sont s'enregistrés de venir même ayant droit à demander l'asile en France n'est plus une évidence et la moitié des gens qui voudraient demander l'asile ne le peuvent plus. Et ça, c'est une forme de violence également.
Également avec nous Bernard Bronstein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur du documentaire Atelier de conversation qui est en salle depuis le 7 février. C'est un film en partenariat avec RFI. Et vous avez posé votre caméra au centre Pompidou à Paris, très exactement à la Bibliothèque publique d'information. Car ici, chaque vendredi à 18h, on vient parler en français de son parcours, on vient créer du lien là ensemble.
Voilà, il y a des gens qui vont dans cet atelier, qui viennent de presque tous les pays du monde. Donc c'est chaque fois qu'on est ensemble là dans cet atelier, on fait un voyage autour du monde. Et les gens, ils sont très très différents. Il y a vraiment des gens qui sont obligés de vivre dans la rue, mais il y a aussi des jeunes étudiants sans souci, des riches, des pauvres. Il y a
un brassage, un métissage incroyable.
Ouais, ouais.
Et vous avez donc mis votre caméra pendant un an hein, dans cet atelier de conversation. Les voisins, les voisines, on attend vos réactions. 33 1 84 22 71 71 et sur notre page Facebook.
Un monsieur que je demande, excuse-moi, où est la France ? Elle m'a dit...
Non, je ne sais pas. L'amour n'existe pas.
Je suis bolivienne.
Je viens de Chine.
Je suis américaine.
Je suis irakien.
Je suis japonaise.
Je viens de la Turquie.
Je viens d'Afghanistan.
Quand il y a une crise, je pense que toutes les personnes, tous les citoyens doivent... avoir les mêmes regards.
C'est difficile d'être loin parce que je me sens que je suis en deux parties. Mmh. Une partie, c'est ici, parce que moi, j'aime France avec tout mon cœur. Mais ma famille est dans votre pays. C'est difficile.
Extrait du documentaire Atelier de conversation donc de Bernard Bronstein en partenariat avec RFI. Donc les participants viennent, sont regroupés ici à 18h le vendredi. Ils apprennent le français en échangeant entre eux. Ce sont tous des déracinés. Ils ont en commun cette expérience.
Voilà, surtout ils ont l'expérience en commun de ne pas maîtriser très bien la langue. Et ça, c'est quelque chose qui réunit les gens aussi. Ça, c'est donc... Moi aussi, j'ai la même expérience parce que je ne maîtrise pas très, très bien la langue encore, malheureusement.
Vous êtes autrichien,
et
c'est
moi,
ça.
Voilà, moi, je suis autrichien et j'ai participé à cet atelier aussi. Et moi, j'étais très, très fasciné par cet endroit, justement, par la beauté des gens, par les humains qui viennent, par leur histoire. Et je voulais partager cette expérience avec... le public.
Et c'est ce qui est une des réussites hein, de votre documentaire. On comprend que ce sont vraiment des êtres humains avec des histoires singulières et qui ne représentent pas un danger potentiel pour nous.
Voilà, parce que les politiciens, on entend souvent leur parler des migrants comme une masse dangereuse. Et moi, je trouve que c'est complètement faux parce qu'il faut voir vraiment les individus, les humains. Parce que sinon, c'est très inhumain de voir une masse dangereuse.
Et justement, vous commencez votre livre « Entre accueil et rejet hein, », ce que les villes font aux migrants, aux éditions « Le passager clandestin », Michel Agier, vous commencez justement par le témoignage d'une famille syrienne. Et c'est là où on voit effectivement que chacun a son histoire et toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser. Oui, Chora, pardon, Macarani.
On a décidé de mettre, de commencer par la trajectoire d'une famille pour d'abord montrer que ce sont des trajectoires et des passages qui font les migrations et pour situer le point de vue dans l'expérience, dans le vécu de ces voyages. C'était important parce que le livre parle quand même beaucoup des façons de prendre en charge, des mobilisations citoyennes dans les pays d'accueil, etc. Et donc c'était important quand même de placer les premiers concernés en exergue. De même qu'il y a un poème, après le chapitre sur Paris, il y a un poème d'un poète soudanais, Hassan Yassine, qui lui-même est exilé en France et qui nous offre une expérience de pensée sur ce que c'est que cette expérience du rejet, justement, qui est lié à la migration et qui est très puissant. Et c'était important d'entendre sa voix. Ouais.
Et à la fin de cette famille syrienne, de leur témoignage, ils racontent comment ils se sentent profondément isolés hein, quand ils arrivent dans leur trajectoire en Allemagne et autres. Et ils rêvent de ce retour en Syrie. Ils finissent même par dire, même si on finit par trouver notre place ici, aucun pays ne remplacera jamais celui d'où je viens. C'est les limites de l'accueil, Michel Agier.
Oui, mais ce qui est intéressant, quand vous évoquez, par exemple, ou c'est le terme qu'on utilise en général de gens déracinés, et là, la petite partie du reportage de... Monsieur Bronstein, corrige un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les gens passent par des expériences douloureuses, mais au bout du compte, on peut vivre dans plus d'une société. Et ce que disent les migrants aujourd'hui, ceux qu'on appelle les migrants de manière massive et qui ont toute cette diversité que vous évoquez, c'est qu'une fois passées certaines épreuves douloureuses, difficiles, on s'aperçoit que oui, on peut vivre dans plus d'une société. Barbara Cassin, la philosophe, philologue, explique qu'on a besoin de plus d'une langue pour s'exprimer et pour vivre aujourd'hui, on a besoin de plus d'une société. Et l'autre élément, c'est que... ce que montrent ces enquêtes, cet ensemble d'enquêtes que Chora et ses collègues ont coordonnées, c'est que dès qu'on se met à faire l'expérience des gens, à avoir réellement des relations, on s'aperçoit que toutes ces idéologies qu'on entend comme une espèce de voix de fond permanent, ça n'a aucun sens. Mmh. Tout simplement parce que, bien sûr, les humains sont faits pour se rapprocher par l'échange, la relation, etc. Et il y a un décalage incroyable, et ça aussi, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les questions d'accueil et d'hospitalité. La très grande différence, c'est ce qui se passe dans la société avec des gens qui disent ben, dès qu'une relation se fait, rien n'est dramatique, tout d'un coup, tout est normal. Et les grands discours politico-médiatiques, européens, mondiaux, nationaux, qui disent attention, attention des migrants, attention ceci, etc.
Oui, c'est-à-dire que quand même depuis 2015, il faut le dire, hein, on observe tout de même que la politique migratoire européenne dit non à l'arrivée des migrants. C'est illégal.
Depuis bien avant 2015, la politique européenne dit non. La question qui se pose vraiment quand on étudie ces questions-là, c'est pourquoi est-ce que l'Europe a construit ses frontières sous la forme de camps depuis plus de 20 ans? Et pourquoi est-ce que la question du contrôle migratoire, le fait de savoir si on a besoin ou pas de migration, c'est autre chose, et évidemment on en a besoin et de beaucoup. Mais pourquoi est-ce que la question de la migration s'est posée sous la forme du contrôle des frontières, alors que c'est pas aux frontières que les choses se passent? Mais donc, l'Europe dit non aux migrations depuis bien plus longtemps que 2015. L'Europe a besoin de migrants. Si on... Un commissaire européen qui travaille à Frontex rappelait lui-même que, selon les chiffres d'Eurostat, l'Europe a besoin de... d'une dizaine de millions de migrants pour maintenir la balance démographique, c'est-à-dire pour que les retraités puissent toucher une retraite d'ici 2040.
Et alors, ce qu'on observe tout de même au quotidien face aux flux migratoires, en tout cas, et les maires en France, par exemple, ont fait une tribune qu'ils ont signée. Nous sommes au pied du mur. Il y avait les villes de Toulouse, de Bordeaux, de Lille, de Rennes, de Strasbourg qui demandent plus à l'État de faire plus parce qu'ils disent que les structures d'hébergement sont saturées. Ils dénoncent la pénurie de moyens pour l'accueil des migrants. Les villes maintenant se retrouvent vraiment en première ligne.
C'est un moment intéressant, je pense, en Europe en général, parce qu'on commence à s'apercevoir, il y en a des éléments dans cet ouvrage-ci, mais c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus de villes sont en train de s'organiser un peu comme... le mouvement Eurocities ou le réseau des élus hospitaliers, le réseau européen des villes-refuges. On a de plus en plus de formes comme ça où des villes, parfois des très grandes villes, prennent une position différente de celle des États. Et en particulier, le mouvement dit des villes-refuges avec les très grandes villes comme Barcelone, Madrid, Rome, je crois, Palerme, etc., refusent d'accepter ces politiques des États-nations qui disent qu'on ne veut pas des migrants, on ne les veut à aucun prix, etc., etc. Et au contraire, disent, nous, on aurait les moyens, la ville de Barcelone a fait ça, entre bien, nous, on a les moyens, ça y est, on a les espaces, par une culture de réquisition des immeubles inoccupés, suivis par la municipalité elle-même.
Oui, il y avait nombreux habitants qui avaient accroché sur leur balcon « Réfugiés welcome »,« Réfugiés welcome », donc il y avait vraiment un affichage comme ça de la population qui voulait dire à quel point ils étaient contre la politique de l'État. Alors on a une question sur Facebook de Aubin qui nous arrive du Bénin, qui dit « Les villes engagées dans ce processus d'accueil maltraitent souvent ces réfugiés. Pourquoi les maires ont-ils du mal à supporter l'effectif ?» C'est la question qui se pose. Est-ce que les moyens mis à leur disposition sont insuffisants? Shoura Makarimi.
Bien sûr, il y a une grande insuffisance de moyens, comme le relèvent les maires. Ensuite, il y a une inégalité, disons, de situation, dans le sens où le rapport entre État et ville n'est pas le même dans différents pays. En France, on est dans un pays très centralisé, où l'État et la préfecture ont énormément de prérogatives et où les mairies sont plus dépendantes dans les moyens qui leur sont alloués. En Allemagne, les choses sont différentes. En Italie, les choses sont différentes. Donc, il y a la question de la centralisation d'un point de vue politique. Il y a aussi la question de la géographie différente et de l'espèce de cartographie qui se dessine à travers, par exemple, des villes qui sont petites par leur taille, mais qui deviennent grandes par leur poids politique et disons d'action, par exemple Grande-Synthe, par exemple Lampedusa, dont le maire aussi faisait partie des signataires des appels. Cette question de la géographie se repose d'une autre manière, et donc qui renvoie à la question des moyens, c'est que il y a des villes qui sont volontaristes, mais qui ne sont pas sur les parcours migratoires, comme par exemple Barcelone. Barcelone a demandé une relocalisation des réfugiés, par exemple, dont chaque pays qui était en Grèce et donc chaque pays européen s'était engagé à prendre part, ce qui n'a pas été fait. Faute de relocalisation, Barcelone, qui a une réelle volonté d'accueil, ne peut pas accueillir. Il n'y a pas de réfugiés qui arrivent, donc c'est tout à fait paradoxal. Mmh. Mais il y a différents. Cette question des moyens est confrontée à différents paramètres.
Et alors, est-ce que cette question ressort effectivement dans votre documentaire, dans ces ateliers de conversation que vous avez enregistrés au Centre Pompidou, à la bibliothèque? Est-ce que cette question de l'accueil, de comment on est accueilli dans ces villes, est-ce que ça ressort, Bernard Bronstein?
Il y a plusieurs aspects, parce que comme les gens sont très différents, il y a des gens qui sont très très bien accueillis, qui ont des bourses, qui vivent une belle vie. Justement, il y a aussi d'autres gens qui sont pas bien accueillis, qui vivent dans la rue et qui souffrent énormément et qui comprennent pas du tout comment ça peut arriver. Parce que, par exemple, il y a un Afghan. Il s'appelle Mohamed et lui, il fait un témoignage dans l'atelier et il dit, lui, il y a beaucoup de pauvreté en Afghanistan, mais il n'a jamais vu que les gens, ils sont obligés de dormir à la rue. Donc, il y a beaucoup plus de solidarité. Et moi, je crois cette question de moyenne, nous, dans les pays riches, nous, moi, je trouve qu'on a une obligation humaine de aider ces gens, c'est très très important. Moi je comprends pas pourquoi
ça, c'est votre engagement en faisant ce film, c'était une manière pour vous de dire cet engagement par rapport à l'accueil, justement. Voilà. C'était une manière de vous positionner, c'était le but du film, en fait.
Aussi, je crois que ce film peut être utile de sensibilisation aussi contre le racisme, qui est aussi souvent derrière aussi cette façon dont on regarde sur les migrants.
C'est une forme de rejet, c'est effectivement ce racisme, cette manière de voir l'autre, d'avoir peur, de le considérer comme un étranger qui n'a pas forcément sa place ici. Michel Agé.
C'est-à-dire, c'est complexe. Moi, on ne peut pas considérer comme explication que les sociétés européennes sont xénophobes. Bien sûr, il y a des mouvements qui existent d'extrême droite qui surfent là-dessus. Ils restent minoritaires dans leur discours raciste très ciblé, si vous voulez. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des politiques, il y a la responsabilité des élites, comme on dit, la responsabilité des gouvernements qui appellent ce genre d'attitude, qui disent ah ben vous êtes bien gentil, pardon, vous êtes bien gentil avec ce que vous dites, mais le peuple ne veut pas ça. Le peuple a peur, donc il faut rassurer le peuple. Or, ce que nous voyons, c'est que ce qu'on disait, c'est-à-dire dès que les situations concrètes se présentent, le peuple n'a pas forcément peur. Les gens ont envie de relations, les gens ont cette attitude que vous témoignez.
D'ailleurs, on le verra dans la deuxième partie de l'émission, avec tous les mouvements citoyens, tous les bénévoles qui sont engagés derrière. On verra pourquoi ils s'engagent, comment ils s'engagent, au nom de quel humanisme. Enfin, on verra tous ces mouvements qui sont en train de se développer. Vous restez avec nous, Michel Agé et Shoura Makarimi, auteur de... Vous avez coordonné hein, c'est cet ouvrage entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants, aux éditions Le Passager Clandestin. Également avec nous Bernard Brandstein, réalisateur du documentaire Atelier de conversation qui est en partenariat avec RFI. On se retrouve avec vous, les voisins, les voisines, dans 3 minutes après le flash. Continuez d'envoyer des messages sur Facebook ou appelez-nous pour réagir au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, la place des migrants dans les villes, comment elles sont devenues des espaces d'accueil ou au contraire, elles ont manifesté du rejet, des difficultés à intégrer les nouveaux migrants. Deux anthropologues avec nous aujourd'hui, spécialistes de la question des migrants. Nous avons Michel Agé et Shora Makarimi. Shora d'ailleurs qui coordonne ce livre entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants aux éditions Le Passager Clandestin. Également avec nous Bernard Brandstein, réalisateur du documentaire Atelier de conversation en salle depuis le 7 février. Un film RFI. Vos réactions, nous les attendons, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors avant d'écouter des maires qui ont accueilli, qui ont dit et affirmé vouloir accueillir des migrants, je voudrais rebondir sur la politique d'Emmanuel Macron en ce moment. Est-ce que vous trouvez qu'il dit en substance pour mieux accueillir la France doit en fait, il faut plus renvoyer. Et c'est un paradoxe. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel?
En deux mots, la politique d'Emmanuel Macron, c'est d'abord avoir depuis plusieurs mois, une dizaine de mois maintenant, une violence policière beaucoup plus importante même qu'à l'époque de Sarkozy. Elle est systématique, c'est du harcèlement, ça a été témoigné par tout le monde, avec la négation un peu sur le mode fake news du préfet du Pas-de-Calais, qui nie tout en bloc, alors que tout le monde, journalistes, associations, une simple citoyen, tout le monde témoigne de la réalité. Ça, c'est un peu la base. Qui tend à durcir la réalité quotidienne des migrants et des associations qui viennent en aide aux migrants, qui eux sont désignés par le président comme il l'a fait récemment.
Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron a même dit qu'il a pris à partie les associations en disant vous sabotez, voilà. vous sabotez le travail.
Le travail, voilà. Mmh. C'est vrai que une politique violente et une politique de rejet telle que celle qui est prônée là par ce gouvernement, effectivement, voit des associations s'opposer à cela. Alors l'autre chose dans la politique de Macron qui est en train de se mettre en place, donc qui n'est pas parfaitement visible, c'est, je pense, de repousser le plus loin possible, même géographiquement, les velléités de demander une forme d'aide, une forme d'asile, en allant aussi bien empêcher dans les Alpes les gens, et notamment les mineurs étrangers, de s'approcher d'un lieu où ils pourront demander l'asile, et donc avant même de pouvoir faire le geste, les repousser, ce qui est illégal du point de vue du droit international, et puis aller très loin en Afrique pour avoir des accords très très raides, très très stricts avec certains pays africains pour qu'ils retiennent les personnes. Donc on est dans une espèce d'anticipation qui va finir par annuler la possibilité même du droit d'asile et qui s'élargit finalement à davantage de personnes, aux personnes en mouvement en général, on va dire.
Alors on va voir des exemples quand même de villes qui ont crié haut et fort, nous voulons accueillir. Bon, il y a eu Barcelone, vous en avez parlé tout à l'heure, mais plus près de nous, il y a eu le maire de Grand-Synthe, dans le nord de la France, donc c'est entre Calais et Dunkerque. D'ailleurs, c'est ici qu'il avait autorisé, donc en mars 2016, le premier camp humanitaire pour l'accueil des migrants. Il y avait 2500 réfugiés kurdes qui étaient venus d'Irak et de Syrie aussi. Ils pouvaient enfin vivre décemment. Mais en avril dernier, tout juste un an après sa création, un terrible incendie a ravagé le camp. Depuis, Damien Carême, qui est maire Europe Écologie Les Verts, hein, c'est le maire de la ville, qui a été à l'initiative de ce projet, il a explicitement pour interdiction de l'État de recréer un camp de migrants sur sa commune. Donc Damien Carême, qu'on surnomme le maire des migrants, il revient sur les débuts de son engagement au micro d'Alice Milot.
Depuis 2012, avec quelques maires de la région Nord-Pas-de-Calais, on était confronté au problème de l'arrivée de réfugiés, enfin depuis plus longtemps d'ailleurs, depuis 2006. On avait sur nos territoires, parce qu'on a des stations-service ou des aires de repos le long des autoroutes qui mènent à Calais, on avait des réfugiés qui étaient là, qui restaient 24 heures, 48 heures, qui embarquaient dans des camions et qui partaient en Angleterre. Et puis il y a eu cette arrivée massive à partir de l'été 2015, avec l'arrivée massive des réfugiés en France avec le problème syrien. Et je me suis retrouvé en 5 mois de temps de 60 à 2500 réfugiés sur mon territoire. Et quand à cette époque-là j'interpelle l'État pour qu'il vienne en aide, donc quand j'appelle l'État, je n'ai pas eu de réponse, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Les centres d'accueil d'orientation étaient aux prémices, il n'y en avait pas sur le territoire. Donc je me retrouvais tout seul à gérer ce problème. Et ben, j'ai pas hésité longtemps entre voir des gens vivre dans cette misère, dans cette, enfin, de manière indigne, parfaitement indigne, avec, il y avait 300 femmes, 300 enfants à l'époque. Moi, je ne pouvais pas, j'ai toujours refusé qu'il y ait un mort de faim ou de froid dans ma commune, qu'on soit de passage ou qu'on soit habitant, résident de la commune. Et c'est cette même sensibilité qui m'a poussé à construire ce camp avec Médecins Sans Frontières. Normalement, c'est pas dans mes prérogatives. Mais quand celui qui a les prérogatives est défaillant, bah, il faut bien combler cette défaillance, et donc j'ai assumé ce rôle-là.
Et pourtant, vous êtes dans une commune où il y a 24% de chômage, 30% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, et le revenu annuel moyen est 9600 euros. Donc c'est effectivement une commune où les caractéristiques sociales sont très défavorisées. Ben peut-être que justement ces gens-là sont peut-être plus solidaires que d'autres.
Et sur votre territoire en particulier, vous aviez le sentiment qu'il y avait une tradition d'accueil aussi forte ?
Ben en fait, ma commune, elle est née de l'immigration. C'était un petit village de maraîchers avant les années 60. Et puis il y a eu une décision de l'État déjà à l'époque d'implanter un gros complexe sidérurgique qui était usine or en bord de mer. Et pour construire cette usine et venir travailler, en fait, on est allé chercher des ouvriers partout parce qu'on manquait de main-d'œuvre. Donc on est allé chercher des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Algériens, des Marocains pour venir travailler. Et donc cette ville, vraiment, en peu de temps, on est passé d'un village de 1600 maraîchers à une ville de 25 000 ouvriers en 20 ans. On est allé les chercher à un moment donné, et aujourd'hui ce sont des réfugiés qui arrivent pour d'autres raisons, mais on est issus de l'immigration, et je crois qu'il faut aussi se rappeler notre histoire. On me demande d'intervenir un peu partout pour montrer l'exemple de Grande-Synthe, pour en parler, parce que ça a marqué beaucoup les esprits. Alors c'était à La Roche-sur-Yon, c'était à Niort, c'était à Montpellier, c'était à Grenoble, c'était en région parisienne, à Bourg-la-Reine, à Saint-Ouen-l'Aumône, c'était à Arras, c'était à Aime, c'était voilà, à Paris. Il y a plein de villes en fait où on me demande de témoigner, et quand je vais témoigner dedans, je vois des salles pleines d'habitants, de citoyens qui se demandent ce qu'ils peuvent faire eux pour l'accueil, mais aussi d'élus locaux qui ont accepté d'ouvrir dans leur ville des centres d'accueil et d'orientation. Alors des fois c'est 4 places, des fois c'est 10 places, des fois c'est plus, et qui tous me témoignent aujourd'hui que ça se passe très très bien. Il y a même des mères qui ont, grâce à une famille syrienne qui est arrivée avec 2 enfants, qui ont maintenu leur école, et lui était boulanger, il a réouvert la boulangerie du village qui était fermée. Et on a sans arrêt des exemples comme cela en France, et je n'ai pas de contre-exemple de CAO qui se soit mal passé.
Et ça risque pas de déstabiliser le territoire ou de créer ce fameux appel d'air dont on nous menace depuis longtemps ?
Mais non, vous savez, moi déjà quand j'ai mis la première tente en 2008, on me disait que ça allait faire un appel d'air, ça n'a jamais fait d'appel d'air. Les 2500 qui sont arrivés, il n'y avait rien, et donc ce qui crée l'appel d'air en Europe, c'est la richesse de l'Europe. On est un modèle parce qu'on a la liberté, parce qu'on a de l'argent quand même, parce qu'effectivement il y a du chômage, mais il y a quand même de l'emploi par rapport à ces pays d'où ils viennent. C'est ça qui crée l'appel d'air. Et puis c'est la politique anglaise, où t'as pas besoin de papier pour travailler, donc c'est plus facile d'accéder au marché du travail. C'est pas du tout de mettre des structures d'accueil qui créent l'appel d'air. Je vois pas un Syrien qui dit, ou un Irakien, ou un Iranien, ou un Soudanais qui dit, viens chérie, on va aller à Calais, à Grande-Synthe, à Niort, à La Roche-sur-Yon, parce que là-bas on va être accueillis. Ça passe pas comme ça. Ils fuient leur pays, et tous. La première chose qu'ils voudraient, c'est retourner chez eux. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là. C'est pas par plaisir, c'est pas par choix qu'ils sont là. Donc voilà, pendant ce temps-là, on peut les accueillir, on peut leur, voilà, les mettre dans des bonnes conditions. On peut s'ouvrir un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Là, je voudrais vous rappeler que cet entretien qu'avait réalisé Alice Milot avait été fait. Elle avait rencontré Damien Carême. C'était avant l'incendie qui s'était produit donc sur le camp. Sur sa commune. Donc on entend cette voix quand même qui tranche nettement avec le discours ambiant. Qu'est-ce que ça change quand l'accueil de migrants se fait avec autant d'enthousiasme, Chora Macarémi?
Alors, quand il n'y a pas un discours, disons, qui surimprime l'expérience réelle, mais ça change énormément de choses, comme le montre un petit peu le cas de Grand-Synthe. En fait, ce qui moi, m'a marqué, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans cette intervention. D'une part, c'est le fait que le maire parle très peu de migrants, mais parle de migration. Et en fait, je pense que nous ne sommes pas spécialistes avec Michel Agier de migrants, mais nous étudions les questions de migration. On a chacun été migrant. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger. J'étais migrante pendant ce moment-là. Le film Atelier de conversation est important en ce qu'il montre une expérience partagée entre ce qu'on appelle généralement des expats, c'est-à-dire des Américains à Paris, et ce qu'on appelle des migrants, c'est-à-dire des Afghans à Paris. Et là, on voit bien que ce sont les mêmes expériences. Donc, se situer du point de vue de la migration comme une expérience partagée, et non pas du point de vue des migrants comme des autres, qui ne seraient légitimes d'ailleurs que parce qu'ils sont dans l'urgence, que parce qu'ils sont dans le besoin, ou pas, que parce qu'ils ont le projet de rentrer chez eux. Ça, c'est un autre problème. C'est ce qu'on ne demande jamais à un Américain. On ne lui demande pas « est-ce que tu as vraiment envie de rentrer chez toi ?» Et ça serait la raison, la seule raison pour laquelle on t'accepterait chez nous. Donc, voilà. D'une part, mettre à plat ces questions-là. D'autre part, la question de l'appel d'air, je pense que ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a commencé notre livre avec ça. C'est que l'appel d'air n'est jamais explicité. C'est-à-dire que c'est quoi ce concept d'appel d'air dont tout le monde parle et que personne ne définit jamais ? Ça renvoie à une théorie qui serait économique et qui dirait que c'est l'effet aimant, c'est-à-dire qu'on irait là où il y a plus de possibilités de welfare state, donc de structure sociale, d'aide sociale. Et cette théorie-là, ce concept-là, n'a été vérifié que dans 50% des cas empiriquement. Parce qu'il y a différentes formes de mobilité et de migration. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc oui, certains font le choix d'aller là où il y a des écoles, l'accès à la santé, etc. Mais d'autres ne voient pas leur trajectoire par rapport à cela. Donc l'appel d'air se situe dans le long terme et pas dans le très court terme des accueils d'urgence. Et je pense qu'il revient, on a parlé des politiques publiques, il revient aussi aux politiques médiatiques, aux médias qui sont aussi un quatrième pilier, qui ont un réel pouvoir, de venir déconstruire des concepts qu'on utilise tous sans jamais les définir et qui ont des réels effets politiques. Parce que quand un maire ne croit pas aux appels d'air, ça donne une réalité différente. Il n'y a pas de policiers qui gazent des tentes ou des sacs de couchage à Grand-Synthe, et il y en a à Calais.
Michel Agier, vous voulez réagir? C'est vrai que cette représentation-là, si le migrant était plutôt considéré comme une manière de nous tirer vers le haut plutôt que de représenter un problème, ça change tout.
Oui, ça change tout. Oui, oui. Ce que ne dit pas Damien Carême dans cet extrait, c'est qu'il a été en conflit avec l'État. Donc on revient à notre question de tout à l'heure du rapport entre les villes et l'État. Et le conflit a été très important et je pense assez révélateur. Des États qui ne veulent pas trouver des solutions d'accueil et des villes qui, comme le dit Damien Carême, des maires qui ne veulent pas que sur leur territoire, qui qu'on soit, on meure de froid ou de faim, et donc qui font quelque chose, simplement de manière très pragmatique. Et le conflit s'est poursuivi, parce qu'après l'incendie, on est aujourd'hui dans l'impossibilité de refaire quelque chose.
Et les négociations
sont plus que difficiles. Elles sont bloquées entre une ville comme la ville de Grande-Synthe et le gouvernement. On pourrait parler aussi de Briançon, de Grenoble, de plusieurs villes en France qui se mobilisent et qui voudraient avoir des réponses de l'État qui ne les ont pas.
Paris, on pourrait peut-être parler de cette réponse de la ville, le centre humanitaire, qui a été une sorte de camp humanitaire quand même dans une mégapole du Nord, non ?
Oui, alors le terme de camp humanitaire, déjà, moi, ayant beaucoup travaillé en Afrique et au Proche-Orient sur des camps du HCR, des camps de déplacés, toutes sortes de camps de réfugiés, quand j'entends ça, ça me fait un peu bizarre parce que je ne sais pas trop bien de quoi on parle. Quand on dit camp humanitaire selon les normes internationales, ça ne veut rien dire, je le dis tout de suite, ça n'existe pas. Et en revanche, effectivement, on a créé cette petite bulle esthétiquement attrayante, mais le lieu s'est avéré être un sas d'entrée dans le circuit très tortueux et très difficile de la demande d'asile. Ce qui veut dire qu'à Paris, la ville s'est tout de suite fait récupérer, si je puis dire, enfin reprendre le projet par l'État, alors qu'à Grande-Synthe, la différence, c'est que la ville a tenu pendant un certain temps, mais à un moment donné, s'est fait reprendre la gestion du camp et le gouvernement de toute cette affaire. Et c'est ça où on est en France, dans une situation un peu particulière. Les villes ne peuvent pas avoir cette autonomie par rapport à la puissance de la présence de l'État qui veut contrôler toutes les initiatives. Et on voit le genre de désastre que ça donne avec les atermoiements permanents sur la gestion du camp de Calais, par exemple.
Alors, on peut donner des exemples avant de partir sur un CAO, un centre d'accueil et d'orientation. On ira dans la Manche tout à coup. On peut donner des exemples de villes, par exemple, au Danemark, j'ai lu dans votre livre, il y avait la notion d'habitant amical pour accueillir. Donc, effectivement, des associations se sont montées. Oui, Chora Makarimi.
Oui, il y a beaucoup de mobilisation citoyenne. Il y a des formes de politisation aussi nouvelles qui sont nées à la faveur des réponses citoyennes aux politiques d'hostilité publique. Ils ont des réactions. La notion d'habitant amical vient du monde du soin, donc des soins plutôt médicaux. Donc il y a toute cette tradition du care au Danemark qui a été ressaisie autour de la notion d'habitant amical qui revendique un certain spontanéisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on va pas se baser sur des théories, on ne va pas revendiquer des principes, mais c'est dans les faits exercer de la bienveillance.
Donc, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur des listes pour dire qu'on peut accueillir des réfugiés chez soi, qu'on peut donner de son temps, qu'on peut compter sur soi pour mener des actions, pour chercher des sous. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on est habitant amical?
Oui, alors à la fois, ouais. Ça passe et c'est différent dans différentes villes. C'est-à-dire qu'au nord du Danemark, où ça a été créé, ça répond à cette culture de la bienveillance. À Copenhague, c'est beaucoup plus politisé. Mais à la fois, ça passe sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des groupes qui se créent et qui s'échangent en termes de conduire des gens jusqu'à la frontière, ceux qui veulent passer à la frontière danoise, ou accueillir des gens chez soi, donner des cours, faire des échanges linguistiques, mais également des lieux repères comme des cafés où on peut apporter à manger, où on peut apporter des vêtements, etc. Et c'est cette question des lieux est très importante parce qu'aujourd'hui les actions elles sont très elles passent par les réseaux sociaux, elles sont décentralisées, mais on voit par exemple à Bruxelles le parc Maximilien est un lieu qui est très important. Alors c'est une histoire qui remonte à bien avant 2018, mais aujourd'hui en 2018, c'est un lieu où tous ceux qui veulent accueillir des gens, héberger des gens chez eux, viennent et se manifestent. Donc ça ne passe pas forcément que par les réseaux sociaux, il y a vraiment une centralité de la ville aussi. Et c'est le lieu où s'est mis en place une chaîne humaine de résistance aux rafles policières qui devaient avoir lieu il y a quelques jours ou semaines. Cette mobilisation peut se faire autour d'un lieu. Et en fait, ce que montrent aussi ces enquêtes, c'est comment est-ce qu'il y a des principes différents, c'est-à-dire que c'est plutôt la notion d'habitant bienveillant et d'altruisme en Danemark, en montrant aussi le paradoxe qu'il peut y avoir, la façon dont on peut dépolitiser du coup les enjeux migratoires. À Istanbul, c'est plutôt la question de charité qui renvoie à la tradition islamique de la charité. À Berlin, c'est plutôt l'idée de générosité. Donc il y a aussi différentes cultures nationales et on va renvoyer à des valeurs différentes pour manifester cette même réaction d'hospitalité en réponse à l'hostilité.
Alors on va partir maintenant dans la Manche, hein, à La Chapelle-sur-Vire très exactement. Alors c'est un petit village qui se meurt, il n'y a plus aucun commerce d'ailleurs, les jeunes sont partis. Mais fin 2016, avec le démantèlement de la jungle à Calais, ils ont créé un CAO, donc un centre d'accueil et d'orientation des migrants, extrait d'un reportage d'Alice Milot que vous aviez déjà écouté en mai 2017.
Je frappe toujours avant d'entrer, bonjour.
Bonjour.
Merci.
Tout va bien?
Ouais. Bonjour. C'est la pièce de vie où les résidents prennent leur repas. L'autre fille, est-ce que le traiteur vous amène des repas tout près?
Oui, non, ce matin.
Ce matin.
Oui.
Donc il y a 15 résidents qui sont arrivés ici le 25 octobre, 14 Soudanais et un Ivoirien. Ils venaient tous de Calais quand ils sont arrivés là. Et donc voilà une photo, c'était à Noël, ça je crois, l'autre fille.
Oui, chez Sylvain.
On est allé au Mont-Saint-Michel.
Oui, c'est Mont-Saint-Michel, c'est très célèbre. Je connais Mont-Saint-Michel déjà. Avant de venir ici.
Et vous avez aimé y aller?
Oui, c'est magnifique Mont-Saint-Michel.
Et ici, c'est le cours d'anglais.
Bonjour.
Okay, how many students are there in the school over there?
How many schools
there? Number two.
Number two.
Le mercredi matin, c'est le cours d'anglais avec vous, Sou?
Oui. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est comme il veut, il vient, il passe le temps, il apprend quelque chose. Avec ça, c'est bien d'avoir les deux langues. Mais aussi, c'est important d'avoir quelque chose à faire, parce que sinon, il vient ennui ici. Sinon, il n'y a pas raison de se lever le matin.
vous êtes bénévole.
Oui.
Merci, bah, je vais vous laisser poursuivre votre
D'accord.
cours alors.
Good. If you can say they are reading their books, so which one?
Number two.
La langue, c'est vrai que c'est un élément important aussi d'être intégré, hein, d'être accueilli en France. Bernard Bronstein, vous l'avez mis en lumière dans votre documentaire L'atelier de conversation, donc ces ateliers qui se déroulent au centre Pompidou, à la bibliothèque très exactement, ce documentaire qui est en salle depuis le 7 février. La langue, là, ils apprennent l'anglais, mais ça c'est aussi pour éviter de s'ennuyer, pour être actif. C'est un obstacle énorme pour les étrangers.
Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai fait l'expérience qu'on est bien isolé sans parler la langue si on est dans un pays, si on est en étranger. Et je crois que c'est... Parfois, on a l'impression, on demande aux gens qui viennent d'apprendre la langue tout de suite, de s'intégrer tout de suite. Mais en fait, c'est extrêmement difficile aussi. C'est ça ce que je vois, que c'est une lutte qui dure longtemps. Et pour ça, cet endroit, cet atelier est très important pour beaucoup de gens, parce que là, justement, les gens sont dans la même situation et ils peuvent partager cette expérience, cette souffrance aussi. Et c'est aussi un effet presque thérapeutique. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est, je crois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi là. Donc, on s'écoute, on essaie de se comprendre et on rigole ensemble. Et ça fait du bien.
C'est vrai qu'ils partagent effectivement toutes leurs épreuves. Hein. Il y a beaucoup de conversations aussi politiques par moment. Ils sont pas d'accord. On voit bien qu'ils viennent d'endroits très différents, qu'ils ont traversé. Ils ont des avis aussi très très différents. Que représente au fond cet atelier pour les participants? Vous dites c'est peut-être thérapeutique, mais c'est aussi, on le voit, c'est un lieu d'entraide.
Oui, c'est aussi un lieu où ils sont protégés. C'est un lieu avec une idée d'égalité aussi. Et de rentrer dans cet endroit et d'avoir ce moment de sécurité aussi, ça c'est quelque chose de très important. Et aussi les liens qui s'est créé. Parce qu'après, il y a la question d'apprendre la langue, mais c'est aussi la question de faire des amis, de trouver des alliés, parce que ça, c'est la base pour pouvoir survivre.
Mais oui, on voit, c'est vraiment un lieu d'espoir où ils tissent des liens. C'est le problème de l'isolement. Hein. Ils ont traversé effectivement souvent des pays dans des situations très, très difficiles. Donc, c'est vraiment un lieu de parenthèse. On le comprend bien. C'est pas que pour apprendre le français. Même ce qui est touchant aussi, c'est qu'on voit à quel point ils ont honte aussi de mal parler français.
Bah oui, oui.
Alors quand même, tous les progrès, tout ce qu'ils ont traversé, les vies les plus vulnérables, et comment ils ressortent encore avec cette honte-là?
Oui, ils font un très très grand effort pour apprendre la langue. Mais après, parfois, moi je connais aussi cette sensation de pas pouvoir vraiment exprimer profondément ce que je veux dire. Et donc, on se sent un petit peu pas à la hauteur, en fait.
En tout cas, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de mouvements aussi qui aident les réfugiés. On l'entendait là au CAO avec cette prof bénévole d'anglais. À votre avis, au nom de quoi ces bénévoles ou ces mouvements se revendiquent? Au nom de quoi ils aident?
Il y a plusieurs, motivations. Ça a été un petit peu évoqué. J'avais essayé dans un petit livre qui s'appelle « Les migrants et nous » d'essayer de comprendre qu'est-ce que pouvait être la cause des migrants. Et donc j'avais énuméré un petit peu, il y a cette cause humanitaire en disant si quelqu'un souffre, donc il faut lui venir en aide au nom de Dieu, au nom de l'humanité. En même temps, dans cette démarche-là, le risque est de ne pas reconnaître la personne elle-même qui est là, parce que c'est au nom d'un grand principe trop général. Il y a une cause qui peut être une cause exotique, et des fois, c'est parce que l'autre est tellement différent qu'on est fasciné et qu'on veut le valoriser, ce qui peut aussi avoir le piège de ne pas reconnaître en quoi nous sommes pareils. Ça se passe souvent avec les mobilisations en faveur des gens qu'on appelle des Roms en général, qui eux sont dans une très grande modernité, notamment au niveau des communications, de l'envie d'habiter dans des lieux honorables et qu'on considère comme étant un peu trop parfois des gens très différents, exotiquement trop différents.
Ils ont envie de dire aussi que accueillir c'est positif aussi, ça crée des mouvements positifs. Justement, ils veulent le dire. Par exemple, il y avait la population locale. J'ai lu ça dans une petite ville en Ardèche, à Vence. Il y a 200 habitants. Il y a 1200 habitants. Ils ont accueilli une bonne centaine de migrants et ils veulent le dire. Ça se passe très bien. Donc eux, ils sont vraiment convaincus qu'accueillir des personnes réfugiées, c'est manifester de la solidarité et c'est construire l'humanité. Ils veulent participer à ce monde de demain. Chora, pour terminer.
Oui, en fait, il y a une enquête qui a été faite en Autriche, à Vienne, qui est citée dans notre livre, où plus de 40% seulement des habitants d'un quartier étaient favorables à l'installation d'un centre d'accueil pour les réfugiés, avant l'installation. Et après l'installation, il y avait plus de 70% des gens qui étaient favorables.
Donc, une fois avoir fait l'expérience de l'accueil...
On voit bien ça, mais juste pour revenir brièvement sur ce que c'est qu'accueillir, je trouve que ce documentaire audio qu'on vient d'entendre reflète bien les risques. En fait, accueillir, c'est pas prendre en charge, cette prise en charge qui réduit l'être humain à quelqu'un qui attend, à qui on sert des repas, alors que c'est quelqu'un qui a d'énormes ressources, qui a fait un voyage et qui peut faire beaucoup de choses, mais le restreindre à attendre des repas qui lui sont servis et prendre des cours où il est un peu infantilisé, ça crée des problèmes. Et donc du coup, tant qu'on sera pas dans une... Nous, on décrit des réalités qui sont celles-là, mais on est aussi là pour repenser en profondeur les migrations et les politiques migratoires, parce que ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on pourra surmonter des paradoxes qu'on vit aujourd'hui.
Merci beaucoup, Chora Makarémi, Michel Ager, donc pour ce livre « Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants » aux éditions Le Passager clandestin. Merci à Bernard Bronstein pour ce documentaire « L'atelier de conversation ». Demain, nous allons cultiver l'optimisme. Alors on attend vos messages au 33 1 84 22 71 71. À demain, portez-vous bien.